Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rose-même.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Saviel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les. On puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.
Bonjour à vous qui êtes à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et Paix. Dominique Mucherin avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier, sans rentrer dans le jugement, sans rentrer dans la confrontation, mais nous avons le droit de savoir. À la Commission diocésaine Justice et Paix, nous nous interrogeons sur tous les sujets d'actualité, sur tout ce qui fait le quotidien de l'humain, le quotidien de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le sujet que nous allons aborder tout à l'heure et que vous allez découvrir, et après, chaque personne se fera sa petite idée. Il est certes pas toujours facile d'en parler. Il faut vraiment, aujourd'hui, regarder le monde et avoir le courage de dire les choses, d'écouter et surtout de comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle chose se fait. Et c'est un plaisir pour moi d'accueillir le docteur...
Linda Pavidi.
Qui êtes-vous?
Alors, je suis le docteur Linda Pavidi, je suis biologiste de la reproduction. Alors, le biologiste de la reproduction prend en charge les couples infertiles avec les techniques d'assistance médicale à la procréation. Je suis également présidente de l'association Ferti 971, qui est une association qui est là pour accompagner les personnes infertiles, mais aussi faire de l'information, de la sensibilisation sur la thématique de l'infertilité, pour que le sujet de l'infertilité ne soit plus un tabou, pour briser le silence et donner des solutions aux couples pour qu'ils puissent arriver à réussir leur projet parental et leur projet familial.
L'infertilité, c'est un sujet effectivement un peu tabou. On n'en parle pas souvent. On entend toute une série de choses là-dessus. Et avant d'en parler, on voudrait juste savoir, cette association dont vous êtes la présidente, elle est ici, hein, ici en Guadeloupe.
Oui, c'est une association guadeloupéenne. C'est pour ça qu'elle s'appelle Association Ferti 971. C'est une association guadeloupéenne et c'est une association de professionnels de santé qui gravitent autour de la fertilité. C'est-à-dire que parmi nos adhérents et nos bénévoles, nous avons des gynécologues, des sages-femmes, des biologistes de la reproduction comme moi, également des pharmaciens aussi. En fait, toutes les personnes qui peuvent graviter autour de la problématique de l'infertilité, des psychologues, des sophrologues, des personnes qui vont accompagner, surtout aussi des nutritionnistes et des diététiciens.
Nous savons que c'est quelque chose d'assez triste pour certains couples, apparemment. Il y a beaucoup de souffrance, apparemment, lorsque certaines personnes qui ont envie de fonder un foyer, une famille, n'arrivent pas justement à avoir d'enfants. Beaucoup de couples sont concernés ici en Guadeloupe.
Alors, la problématique en Guadeloupe, c'est la problématique des chiffres. Effectivement, pour vraiment avoir des chiffres qui soient vérifiés, il faut faire des études populationnelles. Et pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'études épidémiologiques réelles. Il y en a une qui est en cours et qui va sortir, mais il n'y a pas eu de chiffres précis. Nous, on a des chiffres liés à notre activité en tant que médecin ou pharmacien prenant en charge des couples infertiles. On voit qu'il y a une augmentation des consultations pour infertilité en Guadeloupe. Je prends le chiffre de l'année 2023. Pour une population de 400 000 habitants, c'est un chiffre qui est quand même un petit peu, qui est significatif. On a eu au centre public d'assistance médicale à la procréation, il y a eu 650 couples qui ont consulté pour infertilité, nouveaux couples. Et dans le centre que je coordonne, qui est le réseau privé d'assistance médicale à la procréation, on a eu une file active à peu près de 150 couples. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que...
Là, vous les cumulez. On dit bien les chiffres, vous les cumulez. Vous avez donné deux chiffres.
Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de personnes en situation d'infertilité qui consultent. Et de toute façon, on peut aussi faire des projections, c'est-à-dire que quand on regarde sur la population nationale ou bien la population mondiale, on sait qu'il y a un couple sur quatre en général qui souffre d'infertilité. Donc ramener à notre population, ça fait beaucoup. Alors il y a aussi des indices démographiques, par contre, qui sont assez parlants et qui montrent bien qu'il y a un problème de fertilité. C'est notamment le nombre d'enfants par femme en âge de procréer, l'indice conjoncturel de natalité, et qui montre bien qu'on a une baisse de la natalité. Et ça, c'est décrit. On voit bien qu'en Guadeloupe, la population est vieillissante. La part aussi d'âge de couples sans enfants augmente chaque année, hein, de couples sans enfants. Donc, on voit bien qu'il y a cette problématique et elle n'est pas liée, attention, je ne parle pas d'infertilité, là, je parle de natalité. La natalité, tout n'est pas lié à l'infertilité. Mais ah, comme il y a une
part... Il y a une belle différence.
On parle bien... La baisse de la natalité, elle a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs en jeu. Il y a l'aspect infertilité, qui a une part d'infertilité, mais aussi tout l'aspect sociétal.
D'accord, les gens qui disent qu'on veut moins d'enfants.
Ils veulent moins d'enfants. Voilà. Et puis, le mode de vie qui fait que les personnes
ont peur
d'avoir beaucoup des familles trop grandes. Enfin, bref, il y a tout ça. Il y a aussi les choix sociétaux qui font que. Mais il y a quand même cette part d'infertilité et à mon avis, il ne faut pas négliger cette part-là, il faut la soigner pour qu'effectivement, pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, ils puissent le faire. Si déjà il y a cette baisse de natalité liée à autre chose, si en plus de ça, ceux qui sont infertiles, ils n'ont pas de solution, eh bien ça va aggraver cette baisse de la natalité. Donc il faut agir dessus, sans être pronataliste. D'accord ? Nous ne sommes pas là pour dire aux gens qu'il faut absolument avoir des enfants.
Avoir des enfants et avoir beaucoup d'enfants.
Non, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout la manœuvre. L'idée, c'est d'être dans le soin, d'être dans l'accompagnement des gens qui souhaitent avoir des enfants, mais qui n'y arrivent pas pour diverses raisons. Là, c'est ça l'objet de notre association et c'est ça aussi l'objet de ma profession.
De votre profession. Donc vous êtes donc, on rappelle...
Je suis le docteur Pavili, biologiste de la reproduction.
Alors, cette souffrance, quand vous recevez les gens... Quand ces personnes viennent en consultation, vous sentez vraiment qu'il y a de la peine dans ce qu'ils vous disent. Il y a une forme de tristesse.
Oui, alors il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Alors il y a effectivement de la tristesse, de la peine, puisqu'on forcément, quand on a ce projet de créer une famille, ça vient toucher quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, quelque chose qui est profondément enraciné dans ses tripes, en fait. Donc forcément, on a de la peine. Mais aussi lié au fait que, aujourd'hui, c'est dans cette société, une fois qu'on décide d'avoir un projet, on veut qu'il réussisse. Donc forcément, ça crée donc un manque, ça crée une impatience qui est totalement compréhensible. Parce que les patients disent souvent ça. Le désir d'enfant, quand il arrive, c'est un désir qu'on ne peut pas réprimer, en fait. Donc, en plus de ça, quand on n'a pas de solution, ben là, on se sent complètement démuni. Et puis, c'est vrai qu'on a un rendez-vous mensuel, en fait, avec cette affaire-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un est infertile, c'est tous les mois, à chaque fois qu'on attend les règles, on se demande qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est des ascenseurs émotionnels perpétuels. C'est-à-dire que chaque mois, on est là, on attend, on a de l'espoir... et ensuite le désespoir. Et il faut en plus se relever, et il faut en plus faire bonne figure, parce qu'il y a la cousine qui a déjà des enfants, mais on se dit, mais pourquoi pas nous ? Et mais en fait, on peut pas, mais on peut pas le dire aussi. Donc les gens, ils ont du mal à nous vraiment consoler. En fait, on se sent un peu isolé. En fait, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans l'infertilité. Et ça vient entrechoquer en plus une notion hyper importante pour l'homme qui le veut, la notion de transmission de ses valeurs, transmission de ses valeurs éducatives, de ses valeurs culturelles. On a l'impression, parce que quelque part, que
la vie s'arrête là, il n'y a plus personne, donc il n'y a pas d'héritier, il n'y a personne qui vient
donc
derrière.
Ça peut engendrer des troubles de la santé mentale, en fait, quelque part.
Jusqu'à ce point-là.
Ah oui, il y a beaucoup de patients qui peuvent développer des formes de dépression. Et le pire, c'est que c'est le silence autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a le tabou derrière ça. Donc, on ne peut même pas en plus trop en parler. Donc, on a très peu de personnes qui peuvent vraiment...
Accompagner, aider, comprendre.
Exactement. Donc, c'est là où ce sujet a un caractère extrêmement...
Délicat
et sensible. Et c'est pour ça que les personnes qui sont dans cette situation-là sont des personnes fragilisées. Et c'est pour cela que c'est important qu'on en parle, parce que c'est pas parfois des personnes qui peuvent se retrouver à aller dans des circuits, à être exposées à des personnes qui vont leur promettre des choses, mais qui ne sont pas vraies, qui ne sont, sont pas tangibles, qui n'ont pas fait leurs preuves. Et c'est important. Donc,
et qui vont surtout fouiller dans leur porte-monnaie. Parce que s'ils leur proposent des choses, c'est que là aussi...
Et c'est en cela que c'est important de pouvoir en parler. Parce que plus on va en parler, moins on sera la proie de personnes qui peuvent peut-être pas bienveillantes finalement. Ouais. Et qui semblent bienveillantes, mais pas forcément. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de faire de la sensibilisation, pour que les gens sachent où aller et à quelle porte frapper quand ils se trouvent dans une situation d'infertilité.
Radio Sophia Altitude,
la radio de votre cœur.
Nous continuons avec le docteur Pavili.
Je vais préciser c'est quoi la situation d'infertilité.
D'accord.
C'est lorsqu'on a une absence de grossesse au bout d'un an de rapport sexuel régulier, sans contraception. Et parfois, il faut même consulter beaucoup plus tôt qu'un an. Quand on sait, par exemple, qu'on a eu dans ses antécédents plus jeunes, soit on a été, par exemple, fumeur de cannabis pendant très longtemps, si on sait qu'on a fumé du cannabis pendant très longtemps pendant sa jeunesse et qu'on veut un enfant, peut-être qu'il faut aller consulter plus vite parce que c'est un facteur d'infertilité. Du coup, il ne faut pas attendre un an puisqu'il faut aller voir s'il n'y a pas eu des répercussions sur son comportement en tant que jeune, sur sa fertilité. Donc c'est important, vraiment très important, de consulter au plus vite. Et consulter qui ? Il faut aller faire des consultations médicales. Il faut aller voir son gynéco pour les femmes, pour aller voir sa sage-femme ou bien son médecin généraliste pour en parler au moins, pour trouver un endroit qui sera sans jugement et qui pourra aiguiller les personnes.
Ce que vous dites est tellement important, surtout quand vous avez parlé de cette affaire de fumer du cannabis. Mmh. Alors, c'est un des facteurs. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous pouvez énumérer?
Oui. Alors, justement, l'idée de toute notre action, c'est la sensibilisation grand public. Parce que je crois que, malheureusement, cette problématique d'infertilité, elle est trop dans le milieu uniquement scientifique et médical. On en parle trop entre nous.
Alors, voilà pourquoi nous, et je le dis pour nos auditeurs qui nous rejoignent là maintenant, que nous sommes avec le docteur Pavili Linda, c'est bien ça,
j'ai bien
dit le nom là.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, et nous parlons justement d'infertilité. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont dites autour, et je me répète, à la commission diocésaine de justice et paix, nous voulons tout savoir et nous voulons comprendre, sans rentrer dans le jugement, sans rentrer dans un débat profond où nous allons confronter des personnes. Non, essayons de comprendre ce qui se passe chez nous, ce qui se passe ici. Ne voilà-t-il pas que vous venez de donner un facteur d'infertilité? Et assez souvent, beaucoup de jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Sans le savoir, ils fument du cannabis et ils fument du cannabis pendant longtemps. Et demain matin, ça peut se retourner contre eux. Voilà des choses qu'il y a à savoir. Voilà des choses qu'il y a à comprendre. Donc, je pense que c'était important pour nous aujourd'hui de vous rencontrer. Je m'excuse, je vous ai coupé. Je vous laisse continuer.
Oui, tout à fait. En fait, c'est l'ADN même de notre association. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on est toujours dans l'entre-soi en tant que scientifique et médical. On participe à des congrès et on apprend beaucoup de choses, justement. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent bien qu'on peut aussi agir sur sa fertilité en amont. On peut être acteur de sa fertilité. Parce que c'est vrai que nous, je suis biologiste à la reproduction, donc je fais de l'assistance médicale à la procréation, mais l'idée, c'est pas forcément qu'on ait recours systématiquement à l'assistance médicale à la procréation, puisqu'on peut être acteur de sa fertilité dès le départ. Et notre association...
Ce que vous voulez dire, avant de proposer tout ce qui est proposé, il y a d'autres choses qui peuvent être faites avant, c'est ça?
Oui, alors, sans perdre de temps, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est au départ, déjà, de se dire... Faisons de la sensibilisation, faisons de l'information déjà auprès des jeunes. Et nous, notre association, d'ailleurs, on a une action qu'on va faire dans l'année, un challenge chez les jeunes pour permettre d'avoir des outils adaptés aux jeunes pour leur dire en quoi eux-mêmes, déjà, sans vouloir avoir des enfants, parce qu'ils sont libres aussi de ne pas vouloir avoir d'enfants. Non, on n'est pas dans la politique, il faut faire des enfants. Mais pour tous ceux qui se projettent dans un projet parental ou qui sont indécis, ils ne savent pas s'ils en voudront plus tard, l'idée c'est de leur dire, mais en fait, vous savez, il y a plein de choses que vous pouvez déjà faire pour protéger votre fertilité. Parce qu'on sait aujourd'hui que le mode de vie qu'on a, et délétère pour la fertilité à la fois des hommes et des femmes.
Donc, oui, parce que tout à l'heure, quand on a parlé, je m'excuse encore de vous couper, parce que tout à l'heure, lorsqu'on a parlé, on a dit quelque chose et j'ai voulu réagir. Ce que vous disiez était tellement intéressant quand vous avez parlé, justement, après une année, voilà, de grossesse, mais là, ça ne vient pas... Ça ne vient pas uniquement de la femme, ça peut aussi venir de l'homme.
Donc exactement, ça aussi c'est important. Donc, déjà, alors, c'est une idée à déconstruire. D'accord. Il n'y a pas que la femme, c'est l'homme.
L'homme. Alors, donc je vous laisse continuer. Encore une fois, je vous ai coupé, mais excusez-moi, c'est tellement intéressant ce
que
vous dites.
Oui, je sais bien, mais en plus c'est normal, on est dans un échange. On est dans un échange, c'est normal. En fait, ce qui est important, notamment chez les jeunes, parce que par exemple, notre association, elle va cibler ces actions chez les jeunes et chez les hommes. Parce que c'est là qu'on voit qu'il faut déconstruire, qu'il y a des idées reçues à enlever.
À éliminer.
Mais par exemple, il y a des comportements chez les jeunes qui sont délétères pour la fertilité. Alors, différents types de comportements, ça peut être des comportements alimentaires. Aujourd'hui, le mode d'alimentation lié sur une alimentation rapide, transformée, on sait, nous, que
la malbouffe.
La malbouffe, voilà. Ça entraîne de l'inflammation dans le testicule ou dans les ovaires. Et du coup, c'est facteur vraiment d'infertilité. Et plus, effectivement, on aura pris cette habitude de manger mal, plus les gamètes qu'on va produire seront sensibles à tout ça. Et quand on arrive à l'âge de procréer, parfois, on se retrouve avec nos tests où on a des éléments qui nous prouvent bien qu'il y a une sorte d'environnement toxique pour les gamètes. C'est le cas pour le tabac, l'alcool, mais bon, c'est vrai pour moi. Aussi, chez les jeunes, il y a un facteur extrêmement important sur lequel eux, ils peuvent agir.
Lequel ?
C'est les infections sexuellement transmissibles.
D'accord.
C'est-à-dire que les jeunes, bon, bien sûr, ils ont le droit de vivre comme ils veulent, mais l'important, c'est la protection contre l'infection sexuellement transmissible. Il y a des germes et qui sont malheureusement beaucoup diagnostiqués chez nos jeunes, enfin chez les jeunes qui ont des rapports sexuels non protégés.
Non protégés, oui.
C'est par exemple le chlamydia. C'est une bactérie qui est très fréquente dans la population. C'est une bactérie qui se soigne. Mais par contre, elle entraîne, chez les hommes et chez les femmes, chez les hommes, elle entraîne le problème des trompes. Parce que ça va créer en fait des adhérences qui font que les trompes ne seront pas perméables et vont empêcher la fertilité de la femme quand elle aura son projet parental. Pareil chez l'homme aussi. Chez le jeune homme, ça passe inaperçu. Il est porteur et si effectivement il a plusieurs partenaires, il va le distribuer à toutes les partenaires. Elles ne vont pas savoir. Et ça passe inaperçu, c'est qu'au moment des bilans d'infertilité qu'on se rend compte que les personnes avaient des antécédents de chlamydia, mais qui n'ont pas été traitées par des antibiotiques et donc qui ont provoqué de l'inflammation chronique au niveau de l'appareil génital et qui ont altéré la capacité fécondante des spermatozoïdes et des ovules. Donc, c'est important d'alerter là-dessus, notamment nos jeunes.
Est-ce que vous avez des colloques assez souvent comme
alors,
ça pour pouvoir
par exemple,
justement.
Oui, alors là je vous parle de sensibilisation grand public.
D'accord.
C'est ce qui manque et c'est ça l'objet de notre association. C'est ce qui manque justement. Et nous, ça fait 4 ans qu'on martèle qu'il faut justement faire cette sensibilisation grand public. Parce que par exemple, vous voyez ceux dont je vous parle, je pense que vous ne saviez pas.
Non. Voilà. Parce que là, j'apprends et c'est la raison pour laquelle encore je me répète et je le dis de nouveau à nos auditeurs qui écoutent l'émission Justice et Paix, qui doivent bien comprendre que nous ne sommes pas là dans le jugement pour pouvoir opposer qui que ce soit, mais pour comprendre.
Oui.
Il faut en parler, il faut comprendre, il faut avoir des armes justement pour ceux et celles qui veulent construire un foyer de mère, avoir des enfants. Voilà des choses qu'on apprend aujourd'hui.
Nous, on n'est pas dans un discours moraliste ou dire faut faire voilà. Comme ci, comme ça.
Ben nous, on n'est pas dans le discours du jugement, c'est
voilà,
pareil.
C'est exactement
on essaie de
ça.
Comprendre.
Là, moi, je suis vraiment là pour éclairer, pour donner des données scientifiques, pour aider la population, parce que il faut quand même travailler sur ce fléau qui nous guette, qui est l'infertilité. Mmh. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut parler à tout le monde, il faut le dire.
Quels sont les facteurs.
Parce que si on peut agir, si on a la possibilité d'agir, il faut. Mais là, pour pouvoir agir, il faut avoir la connaissance.
La connaissance, voilà. Donc, il faut être informé.
Il faut être informé.
Et c'est votre rôle.
Et c'est vrai que mon rôle, c'est de démocratiser. Oui, je suis une scientifique et je suis une personnelle médicale. Donc, j'ai le devoir aussi, parce que je me rends compte que quand j'ai des patients qui viennent consulter, qu'il y a des choses sur lesquelles, à chaque fois, ils me disent « si je savais, j'aurais peut-être fait autrement ». Donc, mon rôle, c'est justement pour qu'il n'ait pas à arriver à dire « j'aurais dû faire autrement. Parce que même si on fait tout ça...
Et quand on dit j'aurais dû faire autrement, ça veut dire ça aurait pu être évité.
Ça aurait pu être évité.
Voilà, pourquoi c'est surtout ça, ça.
Premièrement, ça aurait pu être évité. J'aurais pu avoir un comportement beaucoup plus safe pour mon propre corps et pour moi-même, déjà, en ayant, par exemple, des rapports sexuels protégés. Mmh. Deuxièmement, c'est aussi... avoir l'information de quand il faut faire les choses, parce qu'on a une problématique, en tout cas en consultation, dans le réseau, quand je vois les patients, c'est qu'ils arrivent trop tard. Souvent, souvent, ils sont là à attendre. Ils sont là à attendre que les choses se fassent, que les cieux soient avec eux. Alors, je ne dis pas que les cieux ne sont pas avec eux.
Ah, si, ça,
mais
oui, voilà.
Les cieux sont avec eux, mais il faut quand même faire les choses, il faut agir. Il ne faut pas rester à attendre, parce qu'il faut agir. C'est-à-dire que quand on voit qu'on n'a pas d'enfant au bout d'un an, de rapports sexuels réguliers, il faut agir, il faut aller consulter, il faut aller demander de l'aide, il faut parler, il faut communiquer, il faut aller voir son médecin, il faut aller voir une sage-femme, il faut aller voir un gynécologue. Et hommes et femmes, parce qu'il faut explorer les deux. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des facteurs d'infertilité. Ils sont médicaux, et donc il ne faut pas les ignorer. C'est pas que je dis, la première chose à faire, c'est consulter.
Consulter. Donc vous avez donné les pistes, vous avez dit, tout là,
il faut aller. Consulter.
Donc consulter.
Quand on voit qu'on est dans cette problématique, il faut consulter. Déjà pour avoir des informations, qu'on vous fasse un bilan, pour explorer, voir effectivement s'il n'y a vraiment pas une pathologie derrière.
Voilà.
Parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont causes d'infertilité.
Aussi.
Chez les femmes. Et chez les hommes. Chez
Par exemple.
Chez les femmes, c'est par exemple le problème des trompes qui se bouchent.
Oui.
Pour diverses raisons. Ça peut être de l'endométriose, ça peut être, comme je vous ai dit, des antécédents d'infection ou bien des chirurgies antérieures qui ont été faites au niveau de la sphère abdominale. Ça peut être aussi des troubles de l'ovulation. On en a beaucoup en Guadeloupe où il y a des problèmes de cycle chez la femme, des cycles irréguliers. Quand les femmes ont des cycles irréguliers, il faut qu'elles consultent.
Voilà.
Parce que les cycles irréguliers, c'est un problème d'ovulation, c'est un problème de la machine hormonale qui se fait moins bien. Et on sait aujourd'hui qu'on est exposé à plein de polluants, à des perturbateurs endocriniens. On sait aujourd'hui...
Ah oui, avec ce qu'on bouffe, avec ce qu'on mange, avec ce qu'on respire.
Avec l'exposition au chlordécone, tout ce qu'on respire, etc. Là, c'est décrit. Maintenant, on le sait. Avant, on ne le savait pas trop, mais maintenant, on sait que dans le mode de vie et dans l'exposition environnementale, elle cause des altérations, notamment... Ce qu'on n'avait pas avant, on parlait beaucoup des femmes, mais notamment chez les hommes.
Oui.
On sait aujourd'hui que le gamète, le spermatozoïde, est une cellule fragile. Quand elle est exposée à des facteurs environnementaux...
Tous ceux que vous venez de citer, par exemple, là.
Oui, tous ceux, mais je vous parle aussi de cosmétiques.
Oui.
Je parle
aussi.
Mais les cosmétiques, parfois, ils ont des perturbateurs endocriniens. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à regarder ce qu'ils consomment, à regarder ce qu'ils mettent sur eux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. C'est l'excès qui nuit. L'excès nuit. C'est-à-dire que une femme qui se maquille toute la journée avec des produits, donc elle ne sait pas l'origine, d'où ça vient, etc. Non, il faut qu'elle regarde ce qu'elle met sur sa peau. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des produits qui sont non bio, qui peuvent altérer la fertilité. Oui, il y a des cosmétiques ou il y a des composants qui peuvent ne pas être bons pour la fertilité. Les phtalates, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et comme il y a un principe de précaution à avoir, en fait. C'est un principe de précaution. Donc, en utilisant, par exemple, chez les jeunes filles, moi, je dis toujours, je donne comme conseil aux mamans, regardez ce que vos filles mettent sur elles. Regardez les produits, qu'est-ce qu'ils ont dedans. Pour que ça ne soit pas des usages quotidiens, elles font leur puberté, c'est pas à ce moment-là qu'il faut qu'elles aient énormément de produits de mauvaise qualité. Je dis pas qu'il faut pas se maquiller, c'est pas ça.
Oui, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais
l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met sur soi.
Parce que par rapport aux conséquences que ça va produire après.
Voilà, je parle de cosmétiques, mais ça c'est aussi l'alimentation, c'est ce qu'on met, c'est ce qu'on consomme tous les jours, c'est aussi l'activité physique. Et j'y viens parce que on va parler certainement de l'événement.
Oui. Mais on est là pour ça. On essaie de comprendre pourquoi nos auditeurs puissent bien comprendre pourquoi on fait cette émission.
L'activité physique, aujourd'hui, de plus en plus de publications médicales et scientifiques prouvent que, qu'on soit gros ou pas gros, c'est pas le problème. L'activité physique a des vertus, fertilité, pro-fertilité, sur différents aspects. En effet, si on a un surpoids, il vaut mieux effectivement faire de l'activité physique pour diminuer la masse graisseuse, parce qu'on sait que cette masse graisseuse est pourvoyeuse de produits d'inflammation. Et surtout au niveau des testicules et des ovaires, d'accord ? Donc, il faut perdre du poids. Et en perdant du poids, OK, on améliore sa fertilité. Mais c'est aussi un autre versant. Il y a le versant aussi gestion du stress. Alors, le stress... Alors, on ne faut pas mettre tout sur le stress. C'est pas parce qu'on est stressé qu'on est infertile, parce qu'il y a plein de gens stressés qui sont fertiles. Mais plus vous allez faire des choses qui sont favorables à votre fertilité, mieux vous allez prendre de précautions dessus. Donc, faire de l'activité physique, quelle qu'elle soit, de manière régulière, c'est un facteur pro-fertilité. Donc, il faut se mettre en mouvement.
Voilà. D'accord? Faut bouger.
Faut bouger, qu'on voilà. soit mince ou pas. Ouais. Parce que ça diminue le stress, ça favorise la libération des hormones. C'est vraiment un facteur sur lequel tout le monde peut agir. Quelque part, je ne dis pas que c'est le seul facteur, hein, parce que je vous ai dit, il y a d'autres facteurs.
Ah oui, oui, oui.
Il y a l'âge aussi. Pareil, l'âge, il ne faut pas attendre d'avoir 38 ans pour consulter pour infertilité. Quand on est une femme, par exemple. Et aujourd'hui, on sait aussi que l'âge de l'homme intervient. On ne pensait pas. On pensait que l'homme, il pouvait, comme on dit, procréer jusqu'à ce qu'il meure.
Oui.
Mais non. C'est aujourd'hui, on sait que, ben, on sait, à partir de 45 ans, on sait très bien que les altérations spermatiques sont plus nombreuses. Donc, parfois, il y a des patients qui viennent, ils ont 8 ans d'infertilité. Et ils disent
alors que ça aurait pu être réglé
oui,
en mangeant autrement.
Alors il y a quand même le facteur errance médicale aussi.
C'est-à-dire
errance médicale et désert médical. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voir pas forcément les bonnes personnes d'emblée. Donc ils vont faire des bilans, mais ils vont traîner avec ça. Ils seront pas aiguillés vers les structures en capacité de les prendre en charge, en capacité de vraiment les explorer pour savoir vraiment quelle est la cause d'infertilité. Parce qu'elle peut être médicale, encore une fois, je le dis, elle est médicale souvent. Donc il faut qu'il y ait ce bilan qui soit fait. On peut pas dire aux gens, mais t'inquiète pas, voilà. Non, il faut objectiver. Pourquoi ça ne vient pas? Et si, effectivement, on a vu, il n'y a rien, eh ben, après, le couple peut choisir, effectivement, de ne pas, d'attendre un petit peu. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle l'assistance médicale à la procréation, des façons d'aider aussi les couples à procréer. Ça peut passer par la stimulation, comme ça peut passer par la fécondation in vitro ou les inséminations. Et ça existe. Donc, c'est quand même dommage de qu'il y ait autant de tristesse, autant de couples qui souffrent ou de femmes qui souffrent alors qu'elles peuvent bénéficier de ça. Donc, il faut consulter.
Radio Sophia 88.5, toujours plus proche de vous.
Avant de passer à la manifestation qui va avoir lieu bientôt, est-ce que ça arrive que certaines personnes aussi, bon, automatiquement, après vous avoir vu, baissent les bras et disent, bon, on laisse tomber, on va adopter, ou comme ça, est-ce que ça arrive aussi, ça aussi? Elles disent, bon, on baisse les bras, donc de toute manière, c'était pas fait pour nous, donc nous allons adopter.
Alors, moi, je vais objectiver ça par une étude que d'ailleurs j'ai sous les yeux, hein, qui est une étude qui a été faite en fait par l'INED, qui est l'Institut National d'Études Démographiques. Et elle montre bien que quand les couples sont en parcours d'infertilité, 7 couples traités par FIV sur 10 deviennent parents. Mais pas uniquement grâce aux traitements médicaux. D'accord ? 8 années après le début du traitement par FIV, 71% des couples ont réalisé leur projet parental. Soit 48% deviennent parents grâce à la FIV ou un traitement médical. 11% sont parents grâce à l'adoption. 12% sont devenus parents naturellement après des années d'infécondité. Donc, je réponds à votre question. Du
coup. Oui.
D'accord. Oui. J'ai voulu répondre à votre question, mais de manière chiffrée.
Oui, oui, voilà. D'accord. Et ça, c'est...
Ça, donc, voilà, ça montre bien...
Allez-y.
Il y a tous ces aspects. En fait, il n'y a pas une façon d'être parent. Il y a plusieurs façons d'être parent. Et c'est quand même le discours. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a l'assistance médicale à programme, mais pas que. Déjà, premièrement, on peut être acteur. Donc, améliorer sa fertilité de manière naturelle. Mais le message qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas faire ça pendant des années et penser que ça va arriver comme ça. Voilà, parce qu'on a mis en place 2-3 choses. Il faut aller voir, est-ce qu'il n'y a pas une cause médicale? Donc, il faut explorer médicalement. Oui. Après, c'est le choix des gens de savoir s'ils vont ou pas dans un parcours. Et il y a beaucoup de personnes qui, au bout de un an de parcours, oui, abandonnent. Parce que c'est pas facile. C'est pas un parcours facile, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de bilans, les traitements sont lourds, et puis, il y a de la tension qui se met dans les couples au cours de ce parcours. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de faire cette sensibilisation pour prévenir, pour dire, oui, c'est un parcours, c'est pas un parcours sur le fleuve tranquille, mais par contre, il y a des possibilités d'être accompagné, donc il faut quand même, il faut explorer ce côté-là, c'est important que les gens sachent que ça existe et que c'est possible.
Alors, moi, ce qui me fait plaisir, justement, dans cette discussion que j'ai avec vous, je suis vraiment content de vous avoir rencontré, docteur, parce que moi-même aussi, ça me permet de mieux comprendre par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, par rapport à tout ce qui se dit lorsqu'on est en face d'un professionnel qui sait dire les choses, sincèrement, on comprend mieux. Alors, pour ceux et celles qui
vous comprenez mieux.
Alors. Ah oui, oui, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on parle de sport, lorsqu'on parle de bien s'alimenter, lorsqu'on parle souvent pour ne... parce qu'on va dire aux gens, faites attention parce que vous pouvez avoir du cholestérol, vous pouvez avoir la tension, vous pouvez avoir du diabète, tout ça. Mais jamais
on fait le lien avec
la fertilité.
Oui, parce voilà. Par exemple, le diabète peut être un facteur aussi. Pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Hein, je ne vais pas non plus rentrer dans la tête des gens que c'est parce qu'ils sont diabétiques qu'ils seront infertiles. Ce n'est pas ça. On parle bien de facteur de risque. Un facteur de risque, c'est un facteur... Ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a, on va avoir la pathologie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va aggraver la pathologie. Okay? Donc, on parle bien de facteur de risque. Mmh. Effectivement, l'obésité, c'est un facteur de risque important d'infertilité. Le diabète, l'attention. Il y a des médicaments, par exemple, antihypertenseurs. Qu'on sait qu'ils vont altérer la spermatogénèse.
Ouais.
Et parfois, il y a des patients qui viennent consulter, et quand on leur demande « Mais est-ce que vous avez un traitement antihypertenseur ?» Mais ils ne savent pas, en fait, que le traitement provoque, par exemple, des dysfonctions érectiles, enfin, des problèmes d'érection. Donc, du coup, au niveau sexuel, ben, ça ne peut pas marcher. Et du coup, il y a une infertilité qui s'installe, parce qu'elle peut être d'origine sexuelle, hein, l'infertilité. Eh bien, vous voyez ça, par exemple, c'est important de savoir ça. Eh bien, voilà, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il faut de l'information, le plus d'informations possible, sans rentrer dans des détails
sans,
techniques.
Oui, sans rentrer dans les détails.
Mais dire aux gens, mais écoutez, quand vous avez un problème d'infertilité ou que votre cousine, votre maman, votre sœur, ou bien votre copain, votre ami, le message à dire, c'est
va consulter
au moins pour savoir ce qui un professionnel. Et pareil, c'est pareil aussi parce qu'aujourd'hui existe la préservation des ovocytes en vue d'un projet parental futur. Par exemple, des patients qui ont des pathologies lourdes avec des traitements très lourds qui peuvent impacter leur fertilité, il faut qu'ils sachent qu'ils aient la possibilité de pouvoir conserver, préserver leur gamète avant traitement. Ça dépend de quel traitement, mais tout ça c'est important d'en parler pour démystifier, pour que les gens ils sachent que bon voilà oui que la fertilité n'est pas un problème. En fait, il y a beaucoup de solutions.
Alors, est-ce que ce genre de conférence, vous le faites dans les écoles, à l'université, dans les associations, est-ce que vous allez à la rencontre des gens, qu'est-ce que vous faites
Alors, nous sommes la seule association qui localement qui parle d'infertilité. En fait, c'est un projet quand j'en ai parlé de cette association à d'autres en droit, ils m'ont dit mais c'est novateur, enfin il y a très peu d'associations de professionnels de santé autour de la fertilité, très peu, enfin il y en a quasiment pas, je sais pas, j'ai pas fait la recherche, mais je sais que ça n'existe pas, enfin peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, en Guadeloupe, ouais, ça n'existait pas. Il a fallu créer ça. Et c'est important que ça soit créé. Et ce qui sera encore plus important, c'est qu'il y ait une association de patients aussi, parce qu'on doit travailler en lionnage avec les patients pour trouver les solutions. Donc oui, effectivement, notre association, elle a déjà fait plusieurs conférences. Nous avons fait un congrès qui s'appelle Andro Caraïbes. C'était en janvier 2025. On a invité les professeurs d'université, on avait parmi notre conseil scientifique 5 professeurs d'université qui sont venus parler de la santé reproductive de l'homme. Parce que c'est important qu'on parle des hommes, les hommes doivent prendre leur part dans l'infertilité. Trop longtemps, on a pensé que c'était une affaire de femme. Et on a fait ça, par exemple, à destination des professionnels. Et lors de ce congrès, qui s'appelle Andro Caraïbes, on a fait également une conférence grand public sur alimentation et fertilité. En fait, notre ADN, c'est de faire les deux. C'est-à-dire d'aller au contact de la population sur des conférences, des webinaires ou comme là, effectivement, le Fertirun, Et c'est aussi après de pouvoir faire de la formation aussi, mais justement aux professionnels de santé de proximité, ceux qui sont en contact avec les patients, parce que ils pourront eux-mêmes aussi aiguiller le pharmacien, par exemple d'officine. On va à sa pharmacie, en général, on peut se confier à son pharmacien, mais il peut aiguiller tout de suite, dire mais voilà, vous pouvez aller voir un tel, c'est des personnes qui sont spécialisées en fertilité et vous donner des conseils nutritionnels. Bref, qu'importe, il faut que le maximum de professionnels de santé de première ligne soient sensibilisés aussi, formés, parce que ça ne fait pas forcément partie de la formation de base. Donc nous, notre ADN dans notre association, c'est de permettre de sensibiliser le maximum et de former le maximum tous ceux qui ne sont pas spécialisés en fertilité. Et donc oui, et notre prochain projet s'appelle Protège ta fertilité. Alors c'est un projet que j'espère qu'on pourra faire en lien avec le rectorat, qui ça sera un challenge interlycée. Parce que pour pouvoir sensibiliser les jeunes, il faut utiliser les outils des jeunes. Et nous, on a décidé de créer un challenge, parce que les jeunes adorent les challenges, et on va faire en sorte que qu'il y ait des groupes de lycéens qui créent, qui font un projet créatif. Ça peut être une musique, un slam, ça peut être une vidéo, ça peut être un chant, ça peut être une danse. Et cette création aura un thème sur un facteur de risque de l'infertilité. Et ils devront faire passer des messages de prévention par rapport à ce facteur de risque. Et ensuite, il y aura donc un jury, un concours, et il y aura des prix. Ouais. Et je pense que c'est la meilleure façon pour nous que les jeunes prennent ça à leur niveau, parce qu'ils se sentent éloignés
de ça, ils se sentent pas concernés. C'est normal. Donc il faut utiliser, comme vous avez dit, les moyens qu'eux-mêmes utilisent pour pouvoir communiquer entre eux.
C'est-à-dire message par les jeunes pour les jeunes.
Alors ça c'est bien dit, message par les jeunes pour les jeunes.
Et donc nous on va les encadrer pour que les messages soient des choses qui soient vérifiées scientifiquement et que le message réel passe
mais, parce que mais pour pas que ça ne parte pas
le côté ludique. Voilà, mais par le côté ludique et par le côté créativité.
Voilà.
Parce que ça a deux intérêts de faire ça. C'est la fois de faire la formation, mais aussi de favoriser et de valoriser la créativité de nos jeunes.
Et oui.
Parce qu'il faut qu'ils prennent confiance en eux sur ça. Ils sont créatifs, les Guadeloupéens. Donc, à mon avis, ça va bien marcher. Bon, on n'a pas encore. On doit le présenter au rectorat, ce projet. J'espère qu'ils vont nous accompagner, qu'ils seront d'accord. Mais en tout cas, c'est le projet phare de notre association. Et je voudrais parler de l'association des étudiants de médecine, puisque c'est une association qui est partenaire avec la nôtre.
D'accord.
Parce que pour nous, c'est important que dès les étudiants de médecine se saisissent déjà de cette thématique, pour être sensibles pour leurs études futures, pour que justement, dès les études de médecine, ils entendent parler de la fertilité. Et ils seront nos partenaires, à la fois sur le Fertirun, qu'on aura bientôt.
On va en parler dans un instant.
Et le projet, Protège ta fertilité. Et je suis contente, parce que je suis fière de cette association des étudiants de médecine de Medic West Indies Antilles-Guyane. Parce qu'ils sont extrêmement dynamiques. Et vous savez, c'est pas moi qui suis allée vers eux, c'est eux qui sont venus vers nous.
Ah, ça, c'est bien.
Et ils ont, en fait, ils ont un procédé très démocratique. Chaque année, ils choisissent une association à parrainer. Et en fait, ils font ça de manière démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un vote parmi tous les étudiants. Et ils choisissent quelle association, quelle cause ils veulent prendre en charge. Et c'est un vote démocratique qui se fait dans les règles de l'art. Et ils ont choisi Fertine 7-1. Donc, je trouve ça top parce que ça montre bien que quelque part, cette problématique d'infertilité, ils n'y sont pas
si éloignés. Ils ne sont pas insensibles là-dessus. Voilà.
Ils savent que c'est important pour leur avenir. C'est eux qui vont soigner demain. Ouais. C'est pas moi. Je ne soignerai plus dans 20 ans.
Ne partez surtout pas. Une petite pause musicale. Nous revenons dans un instant. À tout à l'heure.
OK.
Vous pouvez faire 10 000 bitins qui bon. Personne ne peut que dire ça, le jour où vous au fond des rêves, tout le monde a qu'à mal parler.
Vous pouvez faire 10 000 bitins qui bon, personne ne peut que dire ça, le jour où vous au fond des rêves, tout le monde a qu'à mal parler.
On est en bouillé pour qu'on y ait ça, c'est pour ça que vous voyez moins aller.
Vous pouvez faire 10 000 bitins qui bon.
Personne
ne guette ça. Le jour où on va ouvrir, tout le monde
Nous revoilà après cette petite pause musicale avec le docteur Linda Pavili. Vraiment content de cette première partie où nous avons parlé de choses vraiment intéressantes. Et vous aussi, chers auditeurs, je pense que vous l'avez compris, nous ne sommes pas dans le jugement. Nous sommes là pour essayer de comprendre ce qui se fait autour de l'infertilité. Voilà, sans rentrer dans trop de détails, en première partie, si vous réécoutez l'émission en replay, vous verrez que le docteur Linda Pavili a donné les grandes pistes et nous découvrons que ça peut être traité, certes médicalement, mais depuis la jeunesse, avec notre manière de vivre, notre manière de fonctionner, ce que nous consommons, ce que nous faisons, tout cela est lié. Alors, faisons attention. Maintenant, vous allez nous parler, docteur, de ce projet, de cette course, de ce qu'il y a quelque chose qui va se faire.
Oui, il y a quelque chose qui va se faire. Et c'est important que les Guadeloupéens se saisissent de ça. Il y aura le Fertirun. Le Fertirun, c'est une course 5 km, marche et course, dédiée à la fertilité. Ça sera la première course dédiée à cette cause en France. La Guadeloupe sera pionnière. Et il faut qu'elle soit pionnière parce que justement, la Guadeloupe est un territoire en action. Notre association, j'ai été la représenter au ministère de la Santé le 3 novembre parce qu'on est dans le mois de sensibilisation à l'infertilité. Hein, c'est le mois de novembre. Et nous sommes en partenariat avec le collectif BUM, qui est un collectif de patientes, qui est un collectif national. Je fais partie également d'un collectif qui s'appelle Info Fertilité. Et dans ce cadre-là, j'ai été invitée à la conférence inaugurale du mois de sensibilisation à l'infertilité. Et justement, j'ai parlé des actions qui sont faites sur la Guadeloupe. Et les personnes qui étaient présentes ont bien signifié que la Guadeloupe était un territoire en action et que c'était un exemple inspirant pour la sensibilisation à l'infertilité grâce aux actions que nous faisons. Et quand nous avons présenté le Fertirun, ils nous ont dit que c'est une excellente idée et que si effectivement on est en capacité de pouvoir faire cette opération, ce qui serait bien, c'est que ça puisse se pérenniser et que ça puisse se faire le même jour l'année prochaine sur différents territoires en France. Donc nous avons pris ce rendez-vous. Donc nous devons relever ce défi d'être pionniers de cette course.
Vous êtes les premiers à le faire.
Voilà.
Alors donc
au niveau du territoire national, nous serons les premiers à le faire. Et donc
Ça consiste en quoi ?
En fait, c'est un 5 km avec une course, avec des personnes qui vont courir. Et donc, bien sûr, il y a des prix pour ceux qui arriveront dans les premiers, mais aussi une marche. Et en fait, c'est une course, enfin, c'est un projet familial, en fait. Tout le monde est concerné. Infertilité, tous concernés. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours dans notre environnement quelqu'un qui peut être concerné. Mais nous devons venir pour soutenir, justement, notre association et les actions en faveur de ça, de la sensibilisation et de la formation pour permettre effectivement que ça ne soit plus un sujet dans notre territoire. Il est important que tout le monde soit mobilisé pour permettre que ce sujet ne soit plus un tabou, que les gens se sentent libres de pouvoir en parler sans avoir une honte, sans se sentir culpabilisé ou dans la honte, en fait, tout simplement. C'est important qu'il y ait le maximum de personnes puisque ça montrera que c'est un sujet important pour les Guadeloupéens, mais c'est aussi un sujet important pour le monde entier et pour le territoire national. Donc, c'est important que nous, on se saisisse de ça parce que nous en avons besoin. Notre population, elle est soumise à des facteurs de risque d'infertilité qui sont en pourcentage élevé dans notre territoire.
Et donc, ça augmente petit à petit.
On voit bien qu'il y a quelque chose à faire sur ce territoire. C'est pour ça qu'on Fertile 971 a germé, se développe. Mais pour ça, il faut qu'on soit soutenu, il faut qu'on ait les soutiens et il faut qu'on ait le soutien de la population. Et cette mobilisation sur ce Fertirun permettra justement de montrer la mobilisation de la population sur cette thématique. Et c'est important que tout le monde soit au rendez-vous.
Alors, ce sera où, ce sera quand, ce sera à quelle heure, comment va-t-on faire pour s'inscrire? On va parler de tout ça. Alors, ce sera où, la date?
Alors, ça sera où? Ça sera à Jarry. Et le départ se fait au parc d'activité de Jarry. Ça sera à 18h30 le départ, à Jarry le 29 novembre 2025.
Doit-on s'inscrire? On ne peut pas venir comme ça, on s'inscrit
non,
à l'avance.
On s'inscrit à différents endroits où on peut s'inscrire. On peut s'inscrire sur le site de l'association Ferti 971, donc c'est associationferti.org. On peut aller sur Instagram et le Facebook de l'association pour pouvoir s'inscrire, parce qu'on a le lien d'inscription. Mais aussi, on peut aller sur le site de Jogger Sport ou Fabrice Chronos.
Alors, il faut bien donner tout ça parce que nos auditeurs sont en train de nous écouter.
Donc, c'est Fabrice Chronosport. Il faut aller. C'est là où il y a l'inscription. Et en fait, la course, elle coûte 10 euros. Et tous ces fonds iront pour les actions de l'association.
D'accord. Pour la recherche.
Pour faire toutes ces actions de sensibilisation.
Que vous avez énumérées tout à l'heure.
Congrès. Il y aura un deuxième congrès en Drôme-Caraïbes qui va avoir lieu en octobre 2020. 26. Donc c'est pour faire tout ça parce que ça mobilise beaucoup de moyens. Nous avons le soutien du conseil départemental de la Guadeloupe. On n'a pas beaucoup de soutien institutionnel, en tout cas le conseil départemental de la Guadeloupe nous accompagne. Ils l'ont montré, ils nous accompagnent. On a fait le Ferti Tour il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc là on fait le Ferti Run. Il faut vraiment qu'on ait des soutiens. Le soutien de la population est extrêmement important. Plus les gens sont aussi qui sont pas forcément concernés par l'infertilité, mais entendent ces messages-là, mieux ils pourront appréhender les choses. C'est-à-dire que vous savez, plus on n'est pas concerné, mais aussi les messages qu'on doit donner à celui qui pourrait être concerné, qu'il faut adapter. Parce que parfois, les gens sont intrusifs. Ils vont dire, mais comment, t'as pas encore d'enfant alors, à ton âge, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors ou quoi? Mais non, et ça blesse en fait. Ça blesse celui qui sait que il souffre d'infertilité, mais il peut pas en parler.
On accentue sa souffrance.
Très important qu'on ait des soutiens financiers qui permettent de déployer les actions. Et nous avons un vrai programme.
Alors, je le constate. Donc, en 2026, là,
on termine l'année avec le Ferti Run. Mais après, le prochain projet global qu'on a, c'est un projet pour les jeunes, par les jeunes. Oui. Aussi, on a ce gros projet qui est un congrès où on veut inviter la Caraïbe, d'autres pays à venir discuter avec nous des problématiques qui concernent la santé reproductive de l'homme, de tout ce qui concerne le mode de vie, les répercussions sur la fertilité, la sexualité, la psychologie, la sociologie, enfin tout ce qui peut concerner, qui peut avoir un impact sur la santé reproductive de l'homme, parce que aujourd'hui les articles scientifiques ont montré que la santé reproductive est un indicateur global de santé chez l'homme. C'est-à-dire que quand on dépiste certaines problématiques liées à la santé reproductive de l'homme, par exemple l'infertilité, parfois ça peut être quelque chose qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est ça?
L'arbre qui cache la forêt.
C'est-à-dire qu'en fait, les patients viennent consulter en infertilité et on se retrouve avec d'autres pathologies de type cardiovasculaire, des pathologies métaboliques, endocrinologiques, parce que c'est beaucoup lié, les hormones. Tout ce qui est fertilité, c'est les hormones. Mais parfois, c'est comme ça qu'on dépiste des problèmes de thyroïde chez certaines personnes. Donc, vous voyez, l'infertilité, c'est pluridisciplinaire. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui est un indicateur parfois de d'autres pathologies.
Donc, il faut vraiment prendre ça à cœur.
Oui, il y a un patient qui est venu et puis qui consultait. Le fait d'avoir été pris en charge en infertilité, ça a permis de diagnostiquer son apnée du sommeil, par exemple.
Voilà.
Par exemple. Vous voyez, parce que l'apnée du sommeil, en lien avec des pathologies métaboliques, comme il avait un problème d'infertilité, du coup, on a fait des explorations et du coup on est arrivé à effectivement sa femme qui dit mais ils ont fait effectivement beaucoup l'exploration de l'infertilité, c'est une piste aussi, c'est un indicateur, et de plus en plus de publications le montrent, indicateur de santé globale. Tout le monde soit mobilisé sur le Ferti Run, venez nombreux.
Donc on rappelle la date, pour ceux qui prennent l'émission là maintenant, que nous sommes avec vous, docteur Linda Pavili, que nous parlons d'infertilité et de fertilité, mais en fin de compte, sans jugement, sans rentrer dans trop de détails, mais nous avons bien compris qu'il y a des choses à faire, et nous avons bien compris aussi qu'il est important de faire du sport et de manger normalement, de faire attention à ce qu'on bouffe, la malbouffe, tout cela peut engendrer cette infertilité. Et là, on peut même un peu aussi aller plus loin avant de redonner la date de cette manifestation. On peut même dire que plus qu'il y a, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'on peut dire que plus qu'il y a d'infertilité, plus qu'un pays se dépeuple? On pourrait dire ça, non?
On ne pourra pas dire ça parce que c'est pas que ça le facteur de dépeuplement.
D'accord.
Mais par contre, ça participe.
Ça participe.
Ça participe au fait qu'effectivement, l'infertilité, ça participe au fait que ça baisse, il y a une baisse de la natalité liée aussi à l'infertilité qui est grandissante. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Donc, il faut soigner ça.
Il faut soigner ça. Et de toute manière, nous le disons, chacun saura, avec tout ce que vous avez dit et avec ce que nous avons dit, avec ce que nous avons compris, chacun saura ce qu'il y a à faire là-dessus. Nous rappelons, parce que l'émission est pratiquement terminée, nous rappelons la date de la manifestation, le lieu, l'heure et surtout comment faire pour y participer. C'est surtout ça.
Alors, la date, c'est le 29 novembre 2025. Le lieu, c'est Jarry, parc d'activité de Jarry. La course démarre à 18h30, mais il y aura un village d'information et de sensibilisation qui sera ouvert avant la course pour que les gens viennent prendre de l'information, qui sera ouvert à partir de 16h30 pour que les gens puissent venir avoir des informations. Il y aura des stands avec des professionnels de santé qui pourront les aiguiller sur les problématiques d'infertilité, mais sur d'autres aussi. On va associer messages de prévention, notamment, je vous dis, des messages de prévention sur les infections, etc. Donc, il y a aussi cette part de sensibilisation autour de la course. Et ensuite, il y a la course à 18h30. Et pour s'inscrire, il faut aller sur le site de Fabrice Chronosport. Et là, il y a le Fertirun et choisir Fertirun. Il faut aussi aller sur le site de l'association Ferti971 et sur Instagram, Facebook, nous sommes présents. Et pareil, on peut aussi aller sur le site internet de l'association assoferti.org.
Voilà.
Assoferti971.org,
pardon. Et ça coûte.
Et la course, c'est 10 euros, c'est symbolique,
argent,
c'est pour le matériel, etc. Mais ça va servir aussi à aider financièrement à déployer les actions de Ferti971 au cours de l'année.
On ne peut rien faire sans argent.
Non, on ne peut rien faire. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup fonctionné avec nos fonds propres. Et c'est pour ça que je trouve que les Guadeloupéens, enfin, nous sommes généreux. Les Guadeloupéens sont généreux. On avait fait un gala, ils nous avaient donné un soutien financier. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est par ces dons que nous aussi, nous avons pu fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que justement, que de plus en plus, les institutions nous soutiendront. Dans tous les cas, je suis vraiment contente parce que avec Jogger Sport, j'ai trouvé un partenaire, un allié en capacité de nous accompagner sur la réalisation de l'opération et je remercie Ronny Brut. C'est une personne de valeur que j'ai connue il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'est quelqu'un qui apporte un soutien important à nos actions et je le remercie parce qu'il nous donne la force, il nous donne aussi la compétence parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi on parle quand on parle de course et de marche. Donc, je voudrais vraiment remercier Jogger Sport et Ronny Brut pour sa confiance et son accompagnement.
Merci beaucoup, docteur Linda Pavili.
Merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir été vous aussi sensible à la problématique.
Ah oui, là, j'ai appris beaucoup de choses et je pars avec d'autres idées là-dessus.
Très bien.
Et à vous aussi, chers auditeurs.
Merci, chers auditeurs, aussi, pour votre écoute. Et vraiment, venez nous soutenir et on sera heureux de vous accueillir.
Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute autre émission. Kéberet Pamoli.
Radio Sofaya, la Caraïbe en altitude. Sofaya, altitude.
Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sofaya Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Saint-Rosemême.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bensabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que on puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.